Juste espérer que la technique marche. On va voir si ça marche. Ça va, vous allez entendre. Je vais commencer à vous expliquer un tout petit peu, pour vous qui n'étiez pas là, de quoi il s'agit. En 1929, deux hommes, un missionnaire occidental et un Africain d'Ouganda, ont senti le besoin que Dieu agisse vraiment dans leur vie. Et ils ont commencé à se rencontrer le matin, tôt le matin, à prier, à sonder la Bible ensemble. Et à un moment donné, Dieu est venu par son esprit et a fortement bouleversé ces deux hommes. Dans les semaines qui ont suivi, tout le personnel de l'hôpital missionnaire où ils travaillaient, tout le personnel était complètement changé. Un réveil a éclaté qui s'est répandu de Rwanda au Burundi, Ouganda, Tanzanie, Kenya, et des milliers de personnes étaient converties. Des milliers de personnes dans les églises qui pensaient être chrétiens, des pasteurs se sont convertis et des chrétiens ont eu leur vie complètement bouleversée. Ce qui est particulier, c'est que ce réveil n'a pas duré quelques années, comme souvent dans les grands réveils, mais a longé toutes les années 30, 40 et même dans les années 50. Le réveil a touché l'Europe, l'Indonésie, parce que partout où ces Africains sont allés et partageaient ce qu'ils avaient vécu, Dieu touchait des vies. Il y a des livres renommés qui sont sortis de là, Le chemin du calvaire, qui est traduit en français et dans beaucoup de langues, s'est vendu à plusieurs millions d'exemples et raconte un peu l'enseignement de ce réveil. Et donc, le réveil, le message du réveil se résume en trois choses. Ces chrétiens de l'Afrique de l'Est ont appris que quelque chose au sujet de la victoire de Jésus sur nous, qu'ils appelaient le brisement, la victoire de Jésus pour nous, le pardon par son sang, et la victoire de Jésus en nous, la vie remplie de l'Esprit. Nous avons déjà vu ces deux choses dans deux sermons précédents. Je vous rappelle tout simplement que peut-être la clé de ce réveil était ici. Ces chrétiens ont appris que Dieu ne dédaigne pas le cœur brisé et contrit. Donc voilà une image du réveil en anglais parce que c'était des pays anglophones. Not I, but Christ. Non pas moi, mais Christ. Et ils ont appris que le secret du réveil, un peu perpétuel dans un sens, c'était de revenir constamment à la croix, sans excuse, sans justification, dans la repentance constante. Car nous ne quittons jamais le pied de la croix. Nous, et eux, ils disaient, il faut savoir prendre la place du pécheur. Et quand les gens venaient, il voulait savoir, est-ce que vous savez prendre la place du pécheur? Et dans la vie chrétienne, nous sommes amenés souvent à revenir là. Nous ne voulons pas être des âmes raides. Non, c'est pas moi qui l'ai fait, mais tu m'as provoqué, mais j'étais fatigué. Non, nous venons sans excuse. Pardon, ma chérie, pardon, mon enfant, pardon, mon papa, pardon, mon ami. Ma parole était en colère, je n'ai aucune excuse, je suis pécheur, je suis désolé. Et de là est sorti un grand changement. Et au pied de la croix, ils ont trouvé donc cette deuxième réalité. Au pied de la croix, ils ont trouvé que le sang de Christ nous lave de tout péché et nous libère de toute culpabilité, de toute condamnation. Et nous avons vu que une des choses marquantes de ce réveil, là, quand les visiteurs venaient pour voir, c'était la joie de ces chrétiens dans la puissance du sang de Jésus-Christ pour laver complètement de toute iniquité. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Une œuvre toute divine et insondable. Incroyable. La valeur devant le Père de la mort et des souffrances expiatoires du Fils de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de parler de cela. Mais avant d'arriver au sermon, je dois enlever un peu de brouillard de votre tête. Parce que quand on parle du fait d'être rempli de l'Esprit, dans le Nouveau Testament, quand vous lisez en français, il était rempli de l'Esprit, il y a en fait deux mots grecs différents qui sont employés. Et ces deux mots sont employés pour parler de deux phénomènes différents, distincts. Et je vais vous le montrer. Huit fois dans les écrits de, surtout de Luc, nous trouvons le mot pamplémie en grec. Et ce mot signifie une plénitude, un afflux soudain et subit de l'esprit, comme le jour de la Pentecôte, qui remplit des chrétiens. Chérie, est-ce que tu peux enlever Merci. Merci beaucoup. Six fois dans les écrits de Luc, plus une fois dans les écrits de Paul, on trouve le mot plérou, ou l'adjectif plérès. Ce qui veut dire toujours dans le Nouveau Testament, non pas un afflux soudain et subit, et on est étonné, mais une condition durable. Donc, je vous montre les versets et vous allez voir. Dès qu'Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste, entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillait dans son sein et elle fut remplie subitement, de manière inattendue. Elle n'a pas demandé ça, elle n'a pas fait une démarche. Ça lui est arrivé par une action souveraine de Dieu. Elle fut remplie, pamplémie, du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes !» Et puis, elle prophétise. D'accord ? Un afflux soudain de l'Esprit pour le but d'annoncer une vérité au sujet du Sauveur. Deuxième exemple, Zacharie, le papa de Jean-Baptiste. Zacharie, son père, fut rempli, pamplémie, du Saint-Esprit, et il prophétisa. C'est le jour où il a écrit son nom et Jean. Et enfin, sa langue est libérée, et il prophétisa en ces mots, et voilà. D'accord ? Un afflux soudain, il n'a pas fait une démarche pour être rempli de l'Esprit, ça lui est arrivé de manière inattendue. Troisièmement, nous avons le jour de la Pentecôte, et ils furent tous remplis, pamplémis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, ainsi de suite, annonçant la gloire du Sauveur. Ensuite, Actes chapitre 4, Pierre est devant les autorités, et subitement devant les autorités qui le persécutent, il est subitement rempli de l'Esprit, pamplémis, et leur dit, et maintenant il commence à prêcher un serment aux autorités. Ou bien, à la fin d'acte 4, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et furent tous remplis subitement, pamplémis, du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu. Chaque fois que vous voyez pamplémis, vous voyez tout de suite après que les gens qui sont remplis annoncent l'évangile. Ça va? Cet afflux de l'Esprit, c'est pour qu'ils soient témoins dans une situation particulière. C'est pour une tâche bien donnée. Donc, pour résumer, excusez-moi pour le un peu, c'est pas habituel qu'on fasse comme ça, mais aujourd'hui il faut. Le verbe est toujours dans un temps de grec qui est le temps d'événement. Boum, quelque chose arrive. C'est un afflux soudain de la puissance de l'Esprit. Les personnes n'ont pas fait une démarche ou rempli une condition pour recevoir cette plénitude. Elle est donnée souverainement par Dieu. Et la raison, c'est que la personne parle en témoin de Christ. Voilà. Cet afflux ou plénitude soudaine de l'Esprit est ponctuel et n'est pas gardé au-delà de la circonstance qui l'a requise. Ça veut dire que, pour certains, ils peuvent garder cette plénitude longtemps. Le grand évangéliste George Whitefield, il a eu une plénitude de l'Esprit pendant des décennies. Quand il prêchait, il avait cette onction un peu particulière. Voilà. Mais qui vient sur lui dans la prédication. OK. Deuxième mot. Plérou, le verbe, ou plérès, l'adjectif. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain. C'est pas quelque chose qui lui arrive comme un événement, c'est son état. On est en train de parler de sa condition. Jésus, plein de l'Esprit, ou rempli de l'Esprit, c'est plus clair si on lit acte 6. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes pour être diacres, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit rempli d'Esprit Saint et de sagesse, c'est-à-dire habituellement des hommes qui marchent dans l'Esprit. OK? Ou bien, acte 6 encore, ils élurent Étienne, homme rempli de l'Esprit de foi, rempli de foi et d'Esprit Saint. C'est une condition durable. C'est pas cet afflux. Barnabas, c'était un homme bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. C'était sa condition habituelle. Ou bien, Paul et Barnabas secourèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les esprits étaient imparfaits, remplis de joie et du Saint-Esprit. D'accord? Maintenant, voilà, j'ai fini avec ce verset, mais c'est là l'important. Il y a un seul commandement dans le Nouveau Testament envers vous, vis-à-vis de la plénitude de l'Esprit, et c'est en Éphésiens 5, 18. Et vous êtes commandé non pas d'avoir un afflux spécial, mais d'avoir cette plénitude habituelle. Soyez remplis, plérou, durablement, habituellement, du Saint-Esprit. Maintenant, oui, je suis d'accord avec vous que nous devons aussi prier que Dieu nous donne ces afflux pimplémis, hein, ces réveils où nos prédicateurs vont avoir une onction pour annoncer la parole de Dieu. Mais cela, quand nous prions pour cela, parfois Dieu le donne, parfois on n'a pas la même mesure. C'est une chose qui est... il y a une part de la souveraineté de Dieu dans cela. Tous les jours dans la vie de l'Église n'est pas un réveil. Les réveils sont donnés comme en Bangladesh, vous avez des gros orages qui viennent.
Des moussons.
Si les moussons étaient toujours, le pays serait détruit. Mais si on n'avait jamais de moussons, le pays ne pouvait pas cultiver le riz, parce que les champs de riz demandent à être inondés. Dans la vie de l'Église, nous avons besoin de ces moments de réveil spécial ou de plénitude particulière, soit sur toute l'Église, soit sur des hommes ou des femmes particulières. Mais ce qui est constant, c'est que tous les jours, constamment, nous devons être remplis de l'Esprit. D'accord? Ça veut dire que l'Esprit de Dieu nous contrôle et domine notre existence et notre vie. OK? Je vous mets en garde comme cela parce qu'il y a des gens qui cherchent cette plénitude spéciale et qui ne l'ont jamais eue et qui se disent « Je ne suis pas rempli de l'Esprit ». Ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas pimplemi, mais vous avez peut-être plérou. D'accord? Donc, maintenant... Et dans le serment de tout à l'heure, nous allons parler plutôt de cette sorte de plénitude de l'Esprit qui est pour tous les chrétiens à tout moment. D'accord. Nous allons continuer notre louange. Si vous pouvez trouver dans le carnet noir le numéro 5. Le numéro 5. Oui, on peut, oui. Oui, merci. Oui, donc les enfants peuvent partir. Ok. Voilà. C'est un chant d'aspiration, le numéro 5, que nous voulons chanter dans un esprit de prière.
Je t'en supplie, ô Seigneur, avant tout, enseigne-moi la voie de tes préceptes pour que je puisse y tenir jusqu'au bout. Accorde-moi l'esprit pour que j'accepte ta sainte loi que je veux maintenir de tout mon cœur, malgré l'âme d'inepte. Mais conduis-moi pour me faire retenir le droit sentier des paroles vivantes, où je découvre enfin le vrai plaisir. Penche mon cœur vers ta règle exaltante, vers le bonheur qui s'y trouve assuré, sans que jamais l'avarice nous tente. Ne permets pas que je sois égaré par l'éclafaud du monde et sa folie. Sur ton chemin, fais-moi vivre éclairé. Confirme-moi qui te sera fille ce que toi-même as promis à tous ceux qui, dans ta crainte, en toi seul se confient. Préserve-moi du déshonneur honteux que je crains tant, car tu es charitable. En nous jugeant, tu es généreux. Par-dessus tout, de ta règle admirable, tu sais combien mon cœur est désireux. Délivre-moi par ta grâce adorable.
Bien, nous allons maintenant tourner notre attention vers ce troisième message du réveil de l'Afrique de l'Est, la victoire de Christ en nous, c'est-à-dire la plénitude de l'Esprit. Je voudrais vous lire d'abord le psaume 23. Pourquoi ? Ça semble être bizarre, mais il me semble depuis longtemps que le psaume 23 décrit bien la vie dans l'Esprit. C'est une description de l'Ancien Testament, de la vie de l'homme qui vit dans cette vie de l'Esprit. Donc nous allons juste mettre le texte sur l'écran et le lire. David dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Donc, nous parlons ici d'une vie de plénitude, comme la plénitude de l'Esprit. Vous l'avez sur la petite feuille ici. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton voilant mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Je vais lire le reste, mais quand les chrétiens de l'Afrique de l'Est parlaient de cette troisième réalité, c'est cette phrase qu'ils utilisaient pour décrire le réveil. Ma coupe déborde. Ma coupe déborde. C'est une bonne description, n'est-ce pas? Une bonne image de la vie remplie de l'Esprit. Oui, le bonheur et la grâce donc de Dieu m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviens dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours, ou plus exactement, je crois, pour toujours. Pour toujours. Il parle de l'éternité. Ma coupe déborde. Oui, il est le Seigneur qui remporte la victoire sur nous. Il nous brise, il nous amène au pied de la croix. Nous n'avons plus d'excuses. Mais nous ne restons pas là dans la lamentation, dans la tristesse, parce que le Seigneur a remporté la victoire pour nous. Et nous, il relève celui qui s'abaisse dans la contrition, n'est-ce pas? Et par la puissance de son sang, notre sentiment de culpabilité, la condamnation est enlevée. Et nous sommes réjouissants. Annonce-moi l'allégresse et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Et c'est le cas du chrétien qui apprend la vraie valeur du sang de Jésus-Christ. Mais le Seigneur ne s'occupe pas simplement de la culpabilité de vos péchés, tout en vous laissant ployer sur la puissance du péché. Non, il n'est pas un demi-sauveur, il pardonne nos péchés et il nous délivre graduellement de la puissance du péché dans notre vie. C'est ce péché qui vous amène à être égoïste, à être froid envers Dieu, à être menteur, à être orgueilleux, à être immoral sexuellement, le Seigneur remporte la victoire contre les ténèbres en nous. Il est victorieux. Et donc, les Africains, dans ce réveil, nous enseignent plusieurs choses par rapport à la vie remplie de l'Esprit. Et la première chose, c'est cette victoire de Christ en nous, c'est que la vie remplie de l'Esprit est liée à la repentance. Rappelons-nous que dans ce réveil, les hommes surtout apprenaient à se courber, mais constamment sur la vie chrétienne. La repentance n'est pas au début de la vie chrétienne, et puis je le laisse derrière moi. Au loin de là, la repentance est tout au long de la vie chrétienne. Même quand l'auteur du livre Le Chemin du Calvaire, qui s'est vendu par des millions, un Anglais qui avait été touché par ce réveil, par des hommes qui se sont rendus en Europe, lorsqu'il est venu en Afrique de l'Est en 1949, je crois, 49 ou 50, la première question qu'on lui a posée, c'est « Nous avons bien lu votre livre, ça nous a beaucoup aidé, nous aimons bien rencontrer les auteurs des livres qui nous aident, parce que nous voulons savoir s'ils sont des âmes brisées. » Voilà. Un des frères les plus utilisés par le Seigneur s'appelait William Nagonda. Il venait d'Ouganda. Un homme extraordinaire. Extraordinaire par sa sagesse et son humilité. Il est allé partout dans le monde. Il a été demandé partout dans le monde et partout où il est allé. Il a été d'une grande bénédiction pour les chrétiens. Et une fois, quand il était en Angleterre, on lui a parlé du plus grand prédicateur de l'Angleterre de l'époque, qui s'appelait Martin Lloyd-Jones. Il était au sommet de son pouvoir de prédicateur, un homme formidable, qui a amené des tas de gens dans le royaume. Mais quand on a dit « William, tu dois aller entendre Monsieur Lloyd-Jones, c'est notre plus grand prédicateur », la seule réponse de William Nagonda, c'était « Est-ce qu'il se repent ?» Parce que s'il ne se repent pas, de jour en jour, dans sa vie chrétienne, je ne veux pas l'entendre. Voilà. Donc, la vie de l'esprit est liée à la repentance au début. Parce que, voilà l'appel de Pierre pour ceux qui doivent se convertir le jour de la Pentecôte. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce sont des hommes pénitents, repentants, qui reçoivent l'Esprit au début et ce sont des chrétiens comme vous, je l'espère, et comme moi, qui reviennent à la croix sans excuse qui connaissent la plénitude de l'esprit. Alors, cela est important pour une raison pratique incroyablement capitale. Est-ce que vous avez jamais vu des chrétiens qui prient beaucoup pour la plénitude de l'esprit et rien n'arrive? Cette plénitude ordinaire de tous les chrétiens, qui se manifeste par l'amour, la joie, la paix, la bonté, la fidélité, etc. N'est-ce pas? Ou bien le chrétien qui prie que « Oh Seigneur, je manque d'amour, donne-moi d'amour par ton esprit » ou « Je manque de patience, donne-moi de la patience par ton esprit » et il prie pour certains des fruits de l'esprit. Donne-moi du courage, donne-moi de l'amour, donne-moi par ton esprit, et rien ne change. Ben, les chrétiens dans leur réveil auraient dit tout de suite, vous êtes en train de demander un vertu sans vous repentir pour le péché opposé. C'est-à-dire, tu te rends compte que tu manques d'amour. Tu ne vas pas à Dieu pour demander son esprit. Pour te rendre aimant. D'abord, tu vas à la croix et tu confesses ton manque d'amour comme péché. Je suis égoïste, Seigneur. Je me brise devant toi. Je n'ai pas d'excuse. Et là, tu es purifié et tu peux expérimenter la plénitude de l'esprit. Mais tu peux pas sauter une étape. Nous devons aller à la croix avec nos péchés si nous voulons expérimenter dans cette plénitude de l'esprit. Ça va? C'est clair? Et n'est-ce pas pour vous et moi quelque chose que nous ratons, que nous ne faisons pas suffisamment? Nous voulons aller tout droit vers la solution sans s'occuper du mal que nous avons fait. Et notre Dieu dit, d'abord, tu viens à la croix. Tu viens au pied de la croix. Avec ta colère, avec ton égoïsme. Et ensuite, tu connaîtras la plénitude de l'esprit. Deuxième point, dans ce réveil, on a appris que la vie remplie de l'esprit est liée au sang de Jésus qui nous purifie du péché. Voilà un exemple qui va vous aider à comprendre cela. Un rite dans l'Ancien Testament, on va tout simplement le lire et puis vous comprendrez tout de suite. C'est le sacrificateur maintenant qui doit suivre ce rite pour être confirmé dans sa fonction. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de la main droite et sur le pouce de son pied droit. Le sacrificateur prendra du lobe d'huile et en versera dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur trempera le droit de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche et fera avec le droit cette fois l'aspersion d'huile devant l'Éternel. Ensuite, il mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite, là où il avait mis le sang de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit par-dessus le sang de la victime. Donc, vous voyez que d'abord, c'est le sang, et là où le sang purifie, l'huile roigne. Là où le sang purifie, l'huile loigne. Le sang est une image du sang de Jésus-Christ qui nous purifie de la culpabilité. L'huile est une image du Saint-Esprit. Donc, ces chrétiens ont compris que la plénitude de l'Esprit est acheté, obtenu pour nous par la mort de Christ et non pas par quelque chose que nous faisons. Là où la puissance de la mort de Christ pardonne, la puissance de sa rédemption, on voit aussi l'Esprit. Qu'est-ce qui va vous arriver si vous essayez d'ajouter une autre condition pour être rempli de l'Esprit? Une autre condition en plus de la mort de Jésus qui vous purifie. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut être purifié, il faut être chrétien, sauvé, mais il faut aussi arriver à un certain niveau de consécration pour être rempli de l'esprit, n'est-ce pas? il faut faire ceci, il faut faire cela. Comme si il faut être un bon chrétien pour avoir la plénitude de l'esprit. Oh, il faut la plénitude de l'esprit pour devenir un bon chrétien. C'est à l'envers, n'est-ce pas? Et donc, les chrétiens à Galates, à un moment donné, ajoutaient des conditions à la croix de Christ pour avoir la plénitude de l'esprit. Et Paul dit, « Aux Galates insensés, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié ?» La seule condition nécessaire pour avoir l'esprit. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'esprit? Est-ce que c'est parce que vous avez obéi à Dieu? Vous étiez des bons chrétiens? Ou en écoutant avec foi? Juste écoutant ce que Christ a fait à la croix pour vous. Êtes-vous tellement insensé? Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Par vos propres forces? Avez-vous fait tant d'expériences en vain, si du moins c'est en vain? C'est celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous. Le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Un peu plus tard, il dit ceci, dans le même passage, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, la croix, la purification, hein, afin que, pour les païens, la bénédiction d'Abraham, la justification, se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. D'où vient la promesse de l'Esprit? Christ est devenu malédiction à la croix et là, il a obtenu pour nous la plénitude de l'Esprit. Nous ne devons pas ajouter une condition quelconque à la plénitude de l'Esprit. Sauf l'œuvre de Christ à la croix. Si nous ajoutons des conditions, la plénitude de l'esprit est toujours pour les élites et nous n'arrivons jamais à remplir ces conditions. Et il faut prier beaucoup, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais le problème c'est que justement sans la plénitude de l'esprit, nous n'arrivons jamais à faire ces choses-là. Et donc les chrétiens de l'Afrique de l'Est dans le réveil, on dit que la plénitude de l'esprit se trouve au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée. Pour le chrétien courbé, brisé, qui avoue son péché, c'est pour lui la plénitude de l'esprit. Un jour, Roy Hessien raconte, c'est un des hommes touchés par le réveil, il raconte l'histoire d'un jeune missionnaire au Brésil. Parce que le réveil de l'Afrique de l'Est a touché Brésil. Et ce jeune homme avait appris les leçons du brisement, de revenir constamment à la place du pécheur, et il en avait été vraiment changé. Depuis des mois, un an, même plus, sa vie de pasteur était complètement révolutionnée. Et à une grande conférence, dans les années 50, on lui a demandé de donner un témoignage. Il a donné le témoignage de comment il avait appris ses leçons et comment il avait été changé. Et à la fin de son témoignage, il a dit ceci. « Je ne suis pas encore rempli du Saint-Esprit. C'est peut-être une bénédiction qui va venir, qui m'attend plus loin sur le chemin. Certainement, je suis en route. » Après la rencontre, Roy Hessien, auteur du Chemin du Calvaire, l'a pris à part et il a dit « Je suis très content de ton témoignage, sauf que je regrette, et je lis dans l'autobiographie de Roy Hessien, je regrette de vous entendre dire que vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit. Car en Jésus, toute plénitude demeure. Et si vous venez à la croix, si vous êtes un de ces chrétiens qui vient sans excuse faire face à ses péchés, tout est là. Vous n'avez pas besoin de passer plus loin à la résurrection et puis à la Pentecôte. La résurrection et la Pentecôte sont à vous par le sang de Christ. Dieu a placé toute la plénitude là où les pécheurs peuvent l'obtenir. Et vous êtes venus à Jésus. Vous avez en lui maintenant tout ce dont vous avez besoin. Nous pouvons donc nous emparer par la foi de cette réalité là où le sang purifie, le Saint-Esprit remplit. Ensuite, le troisième point qu'ils ont appris, la plénitude de l'esprit liée à la repentance, liée à l'œuvre de Christ sur la croix. La vie remplie de l'Esprit est pour maintenant et non pas simplement pour plus tard. Vous témoignez aux non-chrétiens parfois, n'est-ce pas? Vous avez eu peut-être en face de vous une fois un non-chrétien qui, convaincu de son péché, Dieu est en train de faire une œuvre, hein? Il voit qu'il est indigne. Je me souviens de Christophe à Grenoble, qui un jour, après avoir assisté à l'église pendant des années, me dit « Je veux te parler du baptême. » Quoi ? Je savais qu'il n'était pas converti jusqu'ici. Explique-moi. Oui, j'ai compris l'évangile assez rapidement. Il était brillant, cet ingénieur. Mais je me croyais trop mauvais, trop indigne pour venir à Jésus. Et puis enfin, j'ai compris. Je suis trop indigne. C'est pour ça que je dois venir à Jésus. J'ai dit « Ah, maintenant, tu as pris la chose par le bon bout. Je vais te parler du baptême. » Mais vous savez qu'il y a des gens qui pensent qu'ils doivent, ils sont trop mauvais et ils doivent devenir des demi-pécheurs. Ils ne peuvent pas venir comme des pécheurs entiers, vraiment mauvais à Jésus. Ils doivent s'améliorer un peu et une fois qu'ils sont que des demi-pécheurs, ils peuvent se convertir. C'est horrible, n'est-ce pas? C'est la justice propre. Il veut se sauver un peu par Jésus et un peu par leur justice propre. Et ça, c'est le péché des péchés. Et ils périront dans cela. C'est le coup raide qui refuse d'avouer que je suis un pécheur entier. Je n'ai rien à t'offrir. N'est-ce pas? C'est vraiment terrible. Mais vous savez, comme vous et moi, nous faisons la même chose par rapport à la plénitude de l'Esprit. Parce que souvent, si je vous avais demandé au début de ce sermon, est-ce que vous êtes rempli du Saint-Esprit en ce moment? Combien d'entre vous m'auraient dit oui? Eh bien, je soupçonne que beaucoup n'auraient jamais osé dire oui, je suis rempli de l'Esprit. Pourquoi? Parce que vous êtes dans cette condition, pas encore, tout comme le non-chrétien, je ne peux pas encore venir à Jésus. Je ne peux pas encore avoir la plénitude de l'Esprit. Pourquoi? Parce que tu attends que ta justice propre soit un peu plus grande, et puis tu penses que la plénitude de l'Esprit te viendra à cause de qui tu es. Non. Il faut que tu reçoives la plénitude de l'Esprit comme un don complètement immérité, qui est en complètement disproportion, dissonance avec qui tu es. Voilà. Que l'Esprit vienne remplir cette personne qui n'a que des mains vides. Il a comblé de bien l'âme affamée. Bienheureux ceux qui ont faim et soif. J'ai rien. Car ils seront rassasiés. C'est difficile pour nous de venir au Seigneur vide et nécessiteux. Mais c'est là, dans cette position, que nous pouvons vivre la plénitude de l'Esprit. Et ça veut dire que c'est pour maintenant, tel que je suis. Nous terminons, oui, je voulais dire que donc le commandement est pour maintenant. Soyez remplis de l'Esprit. Littéralement, c'est un verbe au présent continu. Donc on pourrait traduire, soyez toujours en train d'être remplis de l'Esprit. Voilà. Donc, la plénitude de l'Esprit est pour maintenant, là où vous êtes. Si vous êtes prêt à aller à la croix avec vos péchés, être un chrétien repentant et croyant dans le sang de Christ. Maintenant, nous terminons en décrivant, mais à quoi est-ce que ça ressemble cette vie de plénitude de l'Esprit? Comment est-ce que les chrétiens du réveil de l'Afrique de l'Est vivaient ça? Comment est-ce que ça les changeait? Qu'est-ce que nous pouvons attendre, nous, vous, en apprenant à vivre dans la plénitude de l'Esprit? Premièrement, ça change ta préoccupation. C'est la première chose. Quand nous lisons les propos de Paul, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la bouche, mais soyez remplis de l'Esprit, vous entretenant par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant le Seigneur de tout votre cœur, rendant toujours grâce pour tout à Dieu le Père au nom de Jésus. Qu'est-ce que ça nous montre? Les participes ici, vous entretenant, chantant, célébrant, c'est ce qui découle de la plénitude de l'Esprit. La première chose qui découle de la plénitude de l'Esprit, c'est que tu es préoccupé par la grandeur et la grâce du Dieu trinitaire et du Sauveur Jésus-Christ et l'immensité de qui il est, lui, et ce qu'il a fait. Ce salut, vous ne vous en revenez pas. Et de plus en plus, l'Esprit vous conduit à ne pas vous préoccuper ni de vos victoires, ni de vos défaites, ni de vos vertus, ni de vos péchés, ni de vos circonstances, ni de vos épreuves, ni de rien en vous, parce que vous avez les regards sur Christ. Ta préoccupation dans la vie. Vous savez que lorsque je commence à me regarder, même pour... Est-ce que je suis un homme brisé? Est-ce que je sens assez de contrition? Est-ce que je suis... Excusez-moi, je suis fichu. Je suis cuit. Mais l'Esprit nous amène à porter les regards de plus en plus vers la grandeur de Dieu et de Christ le Sauveur. C'est lui que j'admire. Je ne m'admire pas. Et j'apprends à faire de lui ma préoccupation. Le deuxième point. Si tu es rempli d'esprit, de plus en plus, graduellement, la direction de ta vie change. Dans le sens que qu'est-ce que tu vises? Où vas-tu? Quelle est ton orientation? Par exemple, on va sauter le premier verset, je reviens. Ici, on parle de l'esprit. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Je viens de parler de paix et joie, hein, cette préoccupation avec la grandeur de Dieu, mais il y a autre chose, la justice. Le Saint-Esprit ne vous est pas donné dans sa plénitude pour votre égoïsme, juste pour que votre bonheur à vous. Là où le Saint-Esprit remplit, l'homme ou la femme pense maintenant dans ce sens. Je veux le royaume de Dieu, son royaume, que son nom soit glorifié, que son royaume vienne, que sa volonté sainte et bonne et parfaite soit faite sur la terre comme aux cieux. C'est ça l'orientation, la direction du cœur. Le Saint-Esprit te remplit avec non pas « Ah, moi je veux être heureux », mais « Oh, que la volonté de Dieu soit faite ». Et donc... C'est pour cela que dans le psaume 23, il me conduit dans les sentiers de la justice pour son nom. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette justice morale et ce royaume de Dieu qui vous préoccupe? Ça, c'est l'effet de l'Esprit qui travaille en vous. Il est là. Il est à l'œuvre. Ensuite, nous voyons aussi dans le fruit de l'Esprit. Ça, c'est une description un peu de la justice. Bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses, c'est juste. Mais une autre chose qui change quand on est rempli de l'esprit, c'est ta force. Où est la force de ta vie chrétienne? Vous savez que dans l'Ancien Testament, à un moment donné, dans Ésaïe, Dieu explique la différence entre une fausse religion suivant un faux Dieu et la vraie religion suivant le vrai Dieu de cette manière. Dans la fausse religion, c'est nous qui devons porter notre Dieu comme un fardeau, n'est-ce pas, la statue. Dans la vraie religion, c'est notre Dieu qui nous porte sur ses ailes. Alors, ça, quand j'ai lu ça, c'était une flèche dans mon cœur, car j'ai dû avouer que trop souvent dans ma vie, ma vie chrétienne était mon plus grand problème. La vie chrétienne était un problème, un fardeau pour moi. C'est comme un mal de tête. Tu veux t'en débarrasser, mais tu ne peux pas exactement enlever ta tête. ma vie chrétienne était, je voulais l'enlever, mais je ne peux pas cesser d'être chrétien. Mais si seulement j'avais pas la vie chrétienne à vivre. N'est-ce pas? J'ai vécu des moments comme ça, je ne sais pas vous. Mais ça, c'est parce que moi, j'essaie de porter la vie chrétienne moi-même. Et la plénitude de l'esprit, c'est lorsque Dieu nous porte. C'est pour cela qu'il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne suis pas le berger. C'est pas à moi m'entretenir moi-même. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verts pâturages. Il me conduit vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les verts pâturages. Il dresse devant moi une table. Il oint d'huile ma tête. C'est pour ça que ma coupe déborde. Et de plus en plus, nous devons apprendre que le Seigneur Jésus est vivant. Il est vivant en nous et c'est lui qui porte. C'est lui le ressuscité. C'est pour cela que ce verbe est au passif. Soyez remplis de l'esprit. Comment est-ce que tu peux obéir à un commandement au passif? Si je disais à Pierre, soyez porté par Timo, comment est-ce qu'il peut obéir à ça? Seulement si Timo est déjà en train de vouloir le porter. Et vous pouvez être rempli de l'esprit seulement parce que l'esprit est déjà en train de vouloir vous remplir. Et obéir, c'est laisse-le. Laisse-le. Il y a plus à dire, mais on ne va pas entrer dans tous les aspects de la vie de l'esprit. On se limite aujourd'hui à quelques aspects qui sortent du réveil. Les limites de la plénitude de l'esprit. Les limites. Il y a des gens qui pensent que la plénitude de l'esprit est comme une ampoule qu'on allume, une ampoule normale. Quand tu l'allumes, c'est soit 100% allumé, soit 100% éteint. Et ils pensent que la plénitude de l'esprit est comme ça. Pas vrai. La plénitude de l'esprit est un peu plus comme une ampoule qu'on met avec un de ces interrupteurs où on peut graduellement... vous ou un ballon. Je remplis le ballon, il est rempli, mais je peux le remplir encore. N'est-ce pas? Et vous pouvez être rempli de l'esprit, mais ça ne veut pas dire que vous êtes parfait et qu'il n'y a plus de place de grandir. Vous avez vos limites. Vous péchez encore. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair habituellement, mais sachez que la chair a le désir contraire à l'esprit. L'esprit en a de contraire à la chair. Ils sont posés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Et parfois, nous vivons cela. Le chrétien rempli de l'esprit n'est pas le chrétien qui ne pêche pas. Regardez, si nous marchons dans la lumière, ça veut dire aussi marcher dans l'esprit, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Parce que quand je marche dans la lumière, ça ne veut pas dire que je ne pêche pas. Je vais vous dire une chose. Dans votre meilleur moment, le plus rempli de l'esprit que vous avez jamais été, vous êtes en train de pécher. Parce que tout écart entre vous et la perfection de Jésus-Christ est un péché d'omission. Et devant votre plus grande bonté, vous êtes toujours sous la critique d'une bonté infiniment plus grande. D'accord? Donc, nous ne parlons pas d'un perfectionnisme. Et ça nous libère, n'est-ce pas? Nous savons que nous sommes en chemin, mais que Christ est vraiment en train de remporter une victoire de plus en plus grande dans notre vie. Que je ne suis pas le même homme qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Et vous n'êtes pas la même femme. Si vous vivez dans l'esprit, et il y a une œuvre de victoire qui est en train de prendre du terrain dans votre vie. C'est un peu plus comme cela. Deux choses de plus, et rapidement, tes attentes. Quand nous vivons dans la plénitude de l'esprit, nos attentes pour la vie chrétienne changent. nos attentes. Quand vous lisez le psaume 23, vous voyez ça chez David. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Regardez ses attentes. C'est incroyable. C'est assez incroyable. Est-ce que tu dis au sujet de ta vie chrétienne, et en hébreu, ce mot ici, c'est plus fort qu'accompagner, c'est plutôt, j'ai regardé maintes et maintes occurrences de ce verbe dans l'Ancien Testament et ça veut dire toujours poursuivre ou courir pour rattraper. Il dit, le bonheur et la grâce de Dieu vont me poursuivre tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour toujours. C'est ses attentes pour sa vie chrétienne. Je me lève, je dis, Seigneur, aujourd'hui, je vais être le problème et toi, tu sois la solution. C'est mieux comme ça. Parce que ça... Et rattrape-moi. Rattrape-moi. Et nos attentes changent parce que nous n'attendons pas une plénitude dans la mesure qui convient à nos mérites. Nous attendons une plénitude qui correspond à la grandeur de la grâce de Dieu et à l'œuvre de Christ. Et quand nous le recevons, il a toute la gloire parce que ça n'a pas grand-chose à faire avec nous. La dernière chose, c'est notre but ultime qui change. Nous reviendrons à ce verset. Le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Regardez la vision de David. Il dit, mais je finis mon psaume pas dans cette vie, pas avec les bonnes choses de cette vie. Ce que je veux vraiment, c'est qu'un jour je veux arriver chez moi, dans la maison de l'Éternel. Ici, nous n'avons que les prémices de l'Esprit. Notre désir, c'est Christ lui-même. Être avec lui, être devant sa gloire, être complètement comme lui. Et donc, la plénitude de l'Esprit ne nous fixe pas notre attention sur « Oh, soyons victorieux, victorieux dans cette vie !» Oui, nous voulons que le Seigneur remporte ses victoires, mais nous voulons quelque chose de plus. « Oh Seigneur, viens bientôt !» C'est le Christ lui-même. C'est sa victoire ultime que nous voulons, quand il va venir dans sa gloire, et nous le verrons, et nous tomberons à genoux. C'est ça que nous voulons, pour être avec lui pour toujours. Voilà, donc la plénitude de l'Esprit, que Dieu nous aide à vivre de plus en plus au rez-de-chaussée en tant que vide et nécessiteux et savoir que cette plénitude est pour nous maintenant. Repentant, faisons confiance à lui et cédant à sa direction. Nous allons chanter un chant qui parle justement du Saint-Esprit.